Bonsoir à tous, et nous allons donc poursuivre aujourd'hui cette exploration de la prédation chez les hominines en nous intéressant aux origines de la chasse. Et pour mettre les choses au clair dès le départ, je ne prétends pas pendant ce cours aborder tous les aspects de la chasse paléolithique qui mériterait plusieurs cours, peut-être même une saison entière de cours, car surtout à la fin des temps paléolithiques, on a toute une variété de techniques de chasse qui ont été développées, d'armes de chasse, et l'homme a su utiliser toutes sortes de moyens pour se procurer du gibier. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les origines, c'est-à-dire la phase la plus ancienne. J'évoquerai à la fin de mon cours quelques objets, quelques armes du Pléistocène moyen, final, du Pléistocène supérieur, mais essentiellement, je voudrais me concentrer sur, dans le fond, cette transition entre le monde des primates non humains et puis les hommes eux-mêmes. La dernière fois, nous avons exploré le comportement de prédation chez les grands singes africains et en particulier chez le chimpanzé commun et chez le bonobo ou chimpanzé, nain, pygmée. Et vous avez vu que ces deux espèces qui sont donc essentiellement des espèces frugivores qui consomment aussi des plantes sous diverses formes ont une forte attraction pour la viande de mammifère, et chassent des petits animaux, en tout cas des animaux qui ont un poids très nettement inférieur à la masse corporelle de ces primates. Vous avez vu aussi que chez le chimpanzé commun, on a des comportements sociaux autour de la chasse, et en particulier des chasses collectives, des chasses organisées, où sont essentiellement les mâles, j'allais dire, qui prennent des risques. Ce sont aussi essentiellement les mâles qui bénéficient du produit de la chasse, encore que on a vu qu'il y avait des transferts de viande à l'issue de ces chasses, et ces transferts de viande, dans le fond, consolident les liens sociaux. Et vous avez vu aussi que dans les deux espèces, on a des comportements de cannibalisme qui sont liés soit à une forme de cannibalisme agressif à l'endroit surtout de jeunes individus d'autres groupes. Et puis aussi, on a terminé avec ces images assez impressionnantes d'une femelle bonobo qui consommait le cadavre d'un de ses enfants, d'un de ses jeunes morts naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé plus qu'une fois dans la nature. Alors, évidemment, l'homme, lui, est un consommateur de viande à une échelle bien plus élevée que ce qu'on observe chez ces primates africains. Mais ce que je vous demande quand même de retenir, c'est que la présence de tous les comportements que je viens de résumer en quelques phrases dans ces trois espèces qui partagent un ancêtre commun, rend extrêmement probable la présence d'au moins une partie de ces comportements chez l'ancêtre commun et dans la lignée qui remonte à 7 ou 8 millions d'années et qui relie l'homme actuel aux ancêtres, à cet ancêtre commun, à l'homme et aux deux espèces de chimpanzés. Alors évidemment, sur la partie, je dirais, ancienne de ce parcours, on a très peu d'informations. Alors d'abord, on a très peu d'informations parce qu'on a très peu d'informations d'une façon générale sur l'évolution des hominines les plus anciens. On a très peu de fossiles, très peu d'espèces. On va les évoquer dans un moment. Et puis surtout, le comportement que l'on a observé chez les chimpanzés ou chez les bonobos, ce comportement de consommation de petits mammifères et puis même de chasse, c'est quelque chose qui ne laisse guère de traces dans le registre archéologique. Et donc, même si les hominines d'il y a 7, 6, 5 millions d'années avaient des comportements comparables, ben dans le fond, il faudrait quand même une chance extraordinaire pour que l'on puisse le démontrer. Mais je vous demande quand même de garder ça dans un coin de la tête. Probablement, la première phase évolutive de ces hominines anciens, c'est une phase de consommation occasionnelle de viande, d'intérêt pour la viande, et alors de chasse peut-être ou peut-être pas. En tout cas, il faut bien se rendre compte que la capture de petites proies, vous avez vu que les singes colobes sont quand même assez difficiles à attraper, enfin, ils ne se laissent pas vraiment faire, mais vous avez vu aussi qu'il y a toute une gamme de petites proies, par exemple des petites antilopes qui se tapissent dans l'herbe dès qu'elles sont effrayées, et dans le fond, qu'il suffit seulement de ramasser pour les consommer. Et ça, c'est le genre de choses probablement qui a existé chez ces formes très anciennes d'hominines. Dernier point que je voudrais souligner avant de rentrer plus dans le vif du sujet, c'est que donc je reviens à mon bonobo qui mange un petit, un de ces petits morts. En fait, on a quand même chez ces chimpanzés, chimpanzés communs, chimpanzés bonobos, on n'a pas d'observation de consommation d'animaux morts, de charognes, à part ces épisodes de consommation de petits. Et j'ai posé la question encore récemment à des collègues primatologues qui vont observer dans la nature le comportement de ces chimpanzés, qui les suivent depuis des années et des années, et tous me disent on voit les chimpanzés occasionnellement peuvent rencontrer un cadavre d'antilope morte, mais on n'a pas d'observation qui montre qu'ils ont un intérêt pour ces charognes. Je soulève ce point parce que vous allez voir que la consommation de charognes, ça va être un point central dans les discussions autour de l'origine de la chasse, de la consommation de viande par les premiers hominines, parce que c'est quelque chose qui va se présenter comme une hypothèse assez, j'allais dire, probable, en tout cas qu'il faut envisager. Pourquoi ? Eh bien parce que malgré tous les points communs qu'on a vus entre l'homme et les grands singes, il y a quand même quelques points dans le comportement de prédation des hominines qui vont être quand même assez originaux par rapport à ce qu'on observe chez les autres primates hominoïdes, hominidés même, et en particulier le fait que les hominines vont s'intéresser eux aussi à des mammifères, essentiellement des ongulés, mais assez rapidement, ils vont s'intéresser à des ongulés d'une taille très supérieure au genre de proie que nos chimpanzés capturent. Les chimpanzés capturent des colobes qui font moins de la moitié de leur poids. Vous allez voir que les hominines vont assez rapidement s'intéresser à des animaux d'une taille plus importante. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont, qu'il faut souligner, qu'il faut garder en mémoire. C'est que, en particulier, les hominines ont une consommation de ces proies qui souvent est une consommation différée. C'est-à-dire qu'il y a derrière tous les sites où l'on trouve des traces de ces activités, des restes d'animaux qui portent des traces de boucherie, de découpe, très souvent, presque toujours, on a la preuve d'un transport. D'un transport de ces proies. Vous souvenez, les chimpanzés, ils cassent la croûte sur place, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils ont tué leur petit colobe, ils le mangent sur place, ils le partagent plus ou moins, mais ils le mangent sur place. Donc avec les hominines, on a très souvent des transports. Et ce transport, évidemment, ça a eu des implications sur le plan des comportements sociaux, parce que pourquoi est-ce qu'ils le transportent ? Ben, ils le transportent parce qu'ils le ramènent quelque part, où ils sont peut-être à l'abri, mais aussi où il y a un partage avec d'autres membres du groupe. Alors, ce comportement de prédation chez les hominines, au-delà de cette consommation, j'allais dire, occasionnelle de viande, un peu à la manière de ce qu'on observe chez les grands singes, c'est quelque chose qu'on va surtout voir se développer au cours des deux derniers millions d'années, mais on peut remonter un petit peu plus loin avec les traces archéologiques, paléontologiques. Et ces derniers millions d'années en Afrique, puisque c'est en Afrique que tout ça se passe pour l'instant, sont des millions d'années pendant lesquelles il y a des changements environnementaux très importants. On les a déjà évoqués dans des cours précédents. On a notamment un changement du régime d'alternance entre phases plus froides et phases plus tempérées à l'échelle globale, à l'échelle terrestre. Et surtout, on a une montée de l'aridité en Afrique avec le développement de savanes, de prairies, voire de zones désertiques, au détriment des surfaces forestières, alors avec des alternances, hein, des moments où la forêt reprend, mais en général, disons qu'à chaque pulsation, on va vers un peu plus d'aridité, un climat un peu plus froid et un peu plus d'aridité. Et donc, cette évolution, c'est une évolution qui se fait par pulsation, et en particulier, on a une de ces pulsations vers plus d'aridité qu'on peut détecter grâce aux études sur les isotopes stables du carbone et qu'on relie, dans le fond, à des phénomènes évolutifs qui vont produire chez les hominines la divergence de deux grands groupes, le groupe qui mène au genre Homo et à notre espèce, finalement, et puis une radiation aussi de formes qui sont ce qu'on a appelé autrefois les australopithèques robustes, aujourd'hui on hésite un peu à utiliser ce terme, disons les paranthropes, qui sont des formes qui sont plutôt orientées vers des régimes végétariens coriaces, je dirais, au moins de façon saisonnière. Et dans le fond, ces deux lignées sont deux formes de réponse à des changements environnementaux qui, dans le fond, raréfient la nourriture qui était celle traditionnelle des hominidés, celle que la plupart des chimpanzés, par exemple, consomment. Et d'un côté, on va vers des végétaux, graines, tubercules, choses comme ça, qu'on peut trouver dans des environnements relativement plus sec, en tout cas avec peu d'arbres. Et puis la viande, la viande, c'est l'autre option pour s'adapter à ces environnements. Et alors, on a reconnu d'autres phases comme celle-là, et en particulier celle qui va, si je peux dire, donner naissance, enfin activer chez les Homo erectus des comportements nouveaux, et en particulier cette libération complète du milieu forestier, arboré, et l'expansion de ces hominines hors du continent africain. Alors quand on regarde dans le détail, c'est un espèce de zoom donc dans cet arbre phylogénétique, voilà, de nombreuses espèces. Donc là, j'ai rangé des espèces connues en Afrique entre un peu moins d'un million d'années et puis 7 millions d'années. Elles sont représentées avec des couleurs un petit peu différentes. Donc on a ici ces formes très anciennes d'hominines, le Tchadanthrope, excusez-moi, le Sahelanthrope, Toumaï, du Tchad, Aurorine, Ardipithecus, ce sont des formes qui sont des formes qu'on rattache aux hominines parce qu'elles partagent certains caractères avec nous. Et en fait, quand on dit certains caractères, ça se ramène essentiellement à des indices de bipédie et aussi une réduction des canines qui sont liés chez les autres hominidés à l'agressivité interindividuelle et surtout entre mâles. Donc des changements d'ordre comportementaux et sociaux. Alors, ce qui est important quand même à garder en tête à propos de ces formes, c'est que ce sont des formes qui sont, encore une fois, qui ont des caractères bipèdes, mais qui sont quand même très inféodées aux arbres, aux milieux forestiers, d'ailleurs qui vivent dans des milieux de forêt-galerie, mais qui conservent des capacités à grimper, par exemple, hein, avec en particulier chez Ardipithecus, on a décrit ce pied avec un premier orteil opposable, hein, qui permet de saisir des branches. Et donc là, on est vraiment probablement justement dans cette phase de consommation occasionnelle de viande à la façon de nos chimpanzés. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas de ces formes parce que sur le plan du comportement de prédation, on n'a absolument rien à en dire, sinon des spéculations. Et puis alors, ces espèces qui sont en bleu ici sont, disons, au sens large, les australopithèques. Alors, ces australopithèques, eux, la différence par rapport à ces hominines très anciens, c'est qu'ils montrent, eux, une adaptation beaucoup plus poussée au milieu ouvert, et en particulier à la marche. En fait, ce qui différencie le plus, peut-être, ces formes-là de celles-ci, ben, c'est leur pied. Hein. Ils ont un pied qui commence à ressembler beaucoup à un pied humain, avec quand même toujours quelques caractères, en particulier du membre supérieur, qui montrent qu'ils retournent probablement encore assez souvent dans les arbres. Et puis ensuite, ces formes-là, en brun, eh ben, c'est le genre homo. Alors là, on a affaire à des hommes, si on veut bien les appeler comme ça, encore que les formes les plus anciennes, par certains aspects, ressemblent plus aux australopithèques qu'aux espèces du genre homo, comme Homo erectus, Homo sapiens ou Homo neanderthalensis. C'est pour ça qu'elles sont dans cette couleur un peu incertaine. Et puis les formes vertes, là, ce sont ces fameux hominines qui sont adaptées à des milieux ouverts de savane, même des milieux assez, je dirais, secs, arides peut-être, mais dans une voie qui est différente des consommateurs de viande. Alors on peut essayer d'explorer le régime alimentaire de toutes ces formes à travers différents indices. D'abord, il y a l'anatomie dentaire, hein, tout bêtement. C'est ce qui est le plus classique, le plus traditionnel. On en a déjà parlé dans des cours précédents, pour ceux qui étaient là. Et puis, on peut aussi regarder les traces d'usure dentaire. Ces traces d'usure dentaire, elles sont intéressantes. Elles nous disent des choses sur l'alimentation et sur aussi l'environnement, parce que la présence, par exemple, de particules dans les milieux arides entraîne une usure des dents particulière. Ce qui est important à noter, c'est que cette usure, enfin, ces micro-traces qu'on peut étudier au microscope électronique à balayage, et sur lequel maintenant on a aujourd'hui des outils d'analyse de la géométrie et des outils statistiques pour vraiment étudier ça de façon très très quantitative, c'est vraiment les micro-traces que nous portons sur nos dents, c'est ce qu'on a mangé, sinon la veille, du moins dans les derniers jours. C'est-à-dire que c'est un stigmate qui s'efface, qui est remplacé par d'autres formes. Et donc, c'est assez délicat à manier. Pourquoi ? Eh bien parce que ça peut changer de façon saisonnière. Et dans le fond, la mortalité aussi, elle peut changer de façon saisonnière. C'est-à-dire, quand il y a une mauvaise saison, on a peut-être plus d'individus qui meurent et donc qui ont plus de chances de finir sous forme de fossiles. Et on peut avoir une représentation un peu biaisée du régime alimentaire. J'ai assisté il y a quelques semaines à une communication par une étudiante, une doctorante, qui a travaillé sur cette question-là sur des chimpanzés et qui a très bien montré comment, justement, on avait un signal qui était un petit peu biaisé parce que ces chimpanzés étaient tous morts pendant la saison sèche. Alors, pas parce que c'était la saison sèche, c'était parce que c'était la saison pendant laquelle on était allé les tirer à coups de fusil. mais donc des collections dans des musées, quand on étudiait ces caractères-là, donnaient dans le fond un signal qui était un petit peu biaisé. Alors, avec les isotopes stables du carbone et de l'azote, on a quelque chose qui est plus intéressant dans la mesure où la composition isotopique de l'émail dentaire ou de l'os, dans le fond, là, accumule, en quelque sorte, fait une moyenne de tous les régimes alimentaires que les individus ont eus, alors pas juste au cours des dernières semaines ou des derniers mois, mais sur de nombreuses années. Hein, pour que le tissu osseux d'une côte se renouvelle complètement, bah, il faut plusieurs années, 8 ans à peu près. Donc voilà, si on prend une novocôte et qu'on étudie les proportions de ces isotopes, ben on a une espèce, on a une idée de ce que vous avez mangé au cours des 8 dernières années en moyenne. Hein. Ça s'accumule. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails méthodologiques parce que c'est quelque chose que j'ai évoqué dans mes premiers cours. Alors, peut-être que tout le monde n'était pas là. L'amphi était un peu moins plein. mais disons, pour rafraîchir votre mémoire ou pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais simplement dire que des éléments chimiques comme le carbone, l'azote, l'oxygène, enfin le soufre, on étudie toutes sortes d'éléments comme ça, qui sont des éléments stables dans la nature, eh bien, existent sous plusieurs formes isotopiques, c'est-à-dire qu'on va avoir, en plus de la forme la plus courante, par exemple pour le carbone, c'est un carbone qu'on appelle le carbone 12, eh bien, il va exister dans la nature des carbones 13, 14, qui sont des carbones un petit peu plus lourds. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont dans leur noyau des neutrons supplémentaires. Et donc, ça va leur donner un peu plus de masse. Et puis, alors, ça peut les rendre radioactifs. Par exemple, le carbone 14 est un carbone radioactif qui se désintègre au cours du temps. J'allais dire, heureusement pour nous, paléoanthropologues, parce que cette désintégration est un moyen de datation absolument extraordinaire. Cette désintégration nous offre une horloge atomique particulièrement fiable pour faire des datations. Qu'est-ce que tout ça nous dit à propos de l'alimentation ? Ben, ça nous dit des tas de choses. Pourquoi ? Bien parce que le fait que pour des éléments comme le carbone, l'azote, le soufre, l'oxygène, il existe des formes rares qui sont un peu plus lourdes que les formes normales, eh bien, les molécules organiques qui comportent, par chance, par hasard, un de ces isotopes un petit peu plus lourd, eh bien, vont se comporter de façon un peu différente au cours des phénomènes physiologiques. Et en particulier, au cours de l'assimilation des aliments, eh bien, chaque fois qu'il va falloir être impliqué dans une réaction chimique, plus tard, quand il va falloir passer à travers d'une membrane, bien, tout ça est un petit peu plus lent parce que voilà, on a affaire à une molécule qui est un petit peu plus lourde. Et en particulier avec l'azote, chaque fois que le long d'une chaîne qu'on appelle trophique, un prédateur va consommer une proie, et ce prédateur peut lui-même être consommé par un autre animal, eh bien, il va y avoir un fractionnement isotopique qui va se produire et il va y avoir un changement de la composition isotopique. C'est-à-dire que la proportion de l'isotope 15 de l'azote, qui est un azote un peu plus lourd que l'azote 14, va avoir tendance à augmenter de plus en plus au long de cette chaîne trophique. Et c'est comme ça que on peut construire des diagrammes comme celui-ci, où vous avez ici, en abscisse, les variations de la proportion d'isotope 13 du carbone, et en ordonnée, les variations de l'isotope 15 de l'azote, eh bien, on peut placer des plantes et des animaux sur un diagramme comme celui-là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est d'abord que le long de l'abscisse, on a des chaînes trophiques qui s'enracinent à des endroits différents. on a une chaîne trophique qui démarre avec des plantes qu'on appelle des plantes en C3. Alors, les plantes en C3, dans nos régions, c'est pratiquement toutes les plantes. En Afrique, c'est essentiellement des plantes qui vivent dans le milieu forestier, justement. C'est les feuilles des arbres. Et puis, alors, on a des plantes qu'on appelle des plantes en C4, qui sont des plantes qui ont un cycle du carbone un petit peu différent. Et ces plantes en C4 sont généralement des plantes qui se sont adaptées à des milieux un peu plus secs, justement, un peu plus arides. Et en Afrique, eh bien, c'est les plantes herbacées qui poussent dans les savanes. Alors, il y a aussi des plantes cultivées par l'homme qui sont des plantes en C4, par exemple le maïs. Et donc, un homme qui mange plutôt du maïs, ben, il va se retrouver dans ce diagramme décalé vers ces valeurs-là de l'isotope 13 du carbone. Et puis ensuite, vous voyez cet empilement d'espèces. Eh bien, ça représente des chaînes trophiques d'animaux qui se consomment les uns les autres, enfin, d'abord qui consomment les plantes et puis ensuite qui se consomment les uns les autres, avec un accroissement donc du delta d'azote 15. La chaîne marine se case quelque part entre la chaîne qui s'enracine dans les plantes en C3 et la chaîne des plantes la chaîne trophique qui s'enracine dans les plantes en C4. Et comme le milieu marin, c'est un milieu où il y a un grand nombre justement de niveaux de prédation, avec des chaînes alimentaires qui sont très longues, avec des petits animaux, des mollusques consommés par des petits poissons, des poissons de plus en plus gros, des mammifères marins, puis il y a des super prédateurs qui consomment tout le monde. Donc on a des chaînes beaucoup plus longues avec des enrichissements très importants en carbone 15. Alors, on peut utiliser ces isotopes pour reconstituer le régime alimentaire d'hommes qui vivaient dans le passé. Je vous passe les détails, les difficultés méthodologiques. Disons que la façon la plus simple de faire, c'est dans un environnement particulier, dans un gisement particulier, on mesure les valeurs isotopiques de ces isotopes stables pour des espèces dont on connaît aujourd'hui le régime alimentaire, des rennes, des lions, des loups, des hyènes, des zèbres, tout ce que vous voulez. Et puis, une fois qu'on a pour un gisement toutes ces valeurs, eh bien, si dans ce gisement, on a des restes humains, on peut analyser ces isotopes stables et puis voir si l'homme s'il se place plus près des hyènes, des loups ou plus près des cervidés, par exemple. Pourquoi on aime avoir ces valeurs dans un même gisement ? Pour se libérer d'autres facteurs qui peuvent influencer les valeurs isotopiques, qui sont des valeurs liées au climat, liées aussi à la conservation dans un milieu particulier. Et donc ça permet de s'exonérer un peu de ces difficultés. Alors, je vous le dis tout de suite, malheureusement, pour la période qui nous intéresse le plus, c'est cette origine de la chasse chez l'homme, on est quand même un petit peu handicapé du côté de l'utilisation des isotopes stables. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui marche le plus, enfin le mieux, c'est l'extraction de ces isotopes de molécules organiques. Par exemple, du collagène qui est conservé dans certains os fossiles. Eh bien, on peut extraire de ce collagène du carbone, de l'azote et faire ces mesures. Alors pourquoi on s'intéresse à ces molécules organiques ? On s'intéresse à ces molécules organiques parce que, justement, ce sont des molécules dont on est sûr qu'elles ont été produites par l'organisme dont on veut mesurer, apprécier le régime alimentaire. Le problème d'utiliser du carbone d'origine non organique, c'est que là, justement, tous ces facteurs qui sont liés à la conservation de l'os, enfin ce qu'on appelle la taphonomie, la diagénèse, la transformation chimique des fossiles au cours du temps, peut affecter ces valeurs-là. Et donc, au départ, on est un petit peu réticent à les utiliser. Alors, le problème, quand on étudie des espèces fossiles qui vivaient il y a 2 ou 3 millions d'années en Afrique, c'est que malheureusement, il y a belle lurette que le collagène de ces fossiles a disparu. Et donc, on est obligé de se contenter de mesures isotopiques sur la partie minérale de ces fossiles. Alors, déjà, le fait d'utiliser la partie minérale, ça élimine les mesures de l'azote. Vous savez que l'azote, c'est un élément très important pour la fabrication des protéines, des molécules organiques en général. Et donc, on se contente de mesurer les variations du carbone 13 qui est présent dans les carbonates et dans l'hydroxyapatite et donc dans les tissus squelettiques en particulier. Alors, on a des données pour le carbone 13, pour ces espèces jaunes, bleues, marrons que je vous ai montrées tout à l'heure, avec ici la variation du delta du C13 en abscisse, et puis on commence avec des hominines très anciens, c'est ceux qui étaient encore très liés au milieu arboricole, consommateurs de viande peut-être occasionnelle, mais certainement très, très orientés vers le monde végétal. Et puis ensuite, on a ici nos australopithèques, donc, qui sont, eux, adaptés à des milieux plus ouverts. Et puis, on termine ici avec les représentants du genre Homo et puis ces paranthropes qui sont adaptés à des milieux de plus en plus arides. Et de façon, je dirais, prévisible, eh bien, on observe une variation du delta du C13 depuis les premiers jusqu'au dernier, avec, dans le fond, une évolution qui est une évolution qui nous dit plus de choses sur l'environnement que sur le régime alimentaire. En gros, les valeurs qu'on observe chez les Ardipithecus, par exemple, sont des valeurs qui correspondent aux valeurs isotopiques qu'on va trouver dans des milieux de forêt-galerie, qui est le milieu auquel on assigne ces formes-là. Et puis, on va évoluer vers des valeurs, surtout chez les paranthropes, et les paranthropes d'Afrique de l'Est en particulier, qui sont des valeurs qui correspondent à des environnements où les plantes en C4 dominent, donc ces plantes herbacées, ces graminées qu'on trouve dans les savanes. On voit... Pour être parfaitement clair, vous vous souvenez de l'enracinement de ces chaînes trophiques dans différentes valeurs du C13. Quand on a des valeurs très élevées comme celle-là pour le delta de C13 et qui correspondent à des valeurs qu'on trouve dans les plantes en C4, ça ne veut pas dire forcément que ces espèces mangent des plantes en C4. Ça veut dire qu'elles appartiennent à une chaîne trophique qui s'enracine dans les plantes en C4. Et vous voyez, le problème, c'est que vous mangiez des graines qui poussent dans la savane, ou que vous mangiez les termites qui mangent les graines qui poussent dans la savane, ou que vous mangiez les zèbres qui mangent les herbes qui poussent dans la savane, vous allez avoir des valeurs comparables de ce delta de C13, et ça, c'est extrêmement frustrant. Alors, quand même, on peut tirer quelques informations de ces valeurs. En particulier, vous voyez que le spectre des valeurs isotopiques varient quand même beaucoup d'une espèce à l'autre. C'est-à-dire qu'on démarre avec des espèces qui ont un spectre qui a l'air assez étroit, qui correspond à un milieu très particulier, qui est ce milieu de forêt et galerie. On termine aussi avec des espèces qui, enfin, c'est en tout cas les paranthropes, qui ont un créneau écologique assez fermé, mais au milieu, avec les australopithèques et aussi avec les représentants du genre Homo, on a des espèces quand même qui montrent un approvisionnement, alors quel qu'il soit, végétal ou animal, qui, dans le fond, varie énormément, varie de valeurs qui sont celles qu'on va trouver dans des forêts-galeries ou dans des savanes relativement sèches. Alors, on peut représenter ça d'une autre façon. Voilà des valeurs isotopiques en C13 pour toutes sortes de mammifères qu'on trouve dans les gisements à hominines en Afrique. Et vous voyez qu'on a en gros deux gros paquets qui correspondent aux animaux qui vivent plutôt en milieu forestier puis des animaux qui vivent plutôt en savane. On a ici des valeurs isotopiques du delta de C13 pour les fameux paranthropes complètement décalé et qui vient dans, la, dans les valeurs des milieux de savane. Et puis, ces hominines, alors l'article dont j'ai tiré cet article, pour une raison que je n'ai pas très bien compris, appelle ça des hominidés, mais vous vous souvenez que les hominidés, ça comprend aussi le chimpanzé, le gorille, etc. Et alors, ce qu'on voit, en fait, c'est que, prises tous ensemble, ces hominides, dans le fond, ben, ils évoluent entre ces deux milieux. Et d'ailleurs, ils sont, à la différence de ce qu'on observe chez les autres mammifères, ils ont l'air d'être plus nombreux dans les milieux intermédiaires. Hein. Et donc, c'est peut-être justement cette capacité à vivre dans des interfaces entre des paysages très différents qui fait le caractère particulier de ces hominines. Quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe régionalement et ce qui se passe pour chaque espèce, l'image devient un petit peu plus compliquée. Vous voyez par exemple qu'en Afrique du Sud, entre disons un peu moins de 3 millions d'années et un peu plus d'un million d'années, bah, quelles que soient les espèces qu'on regarde, dans le fond, il n'y a pas de changement majeur de ces valeurs isotopiques du carbone 13. Du delta 13. Simplement, ce qu'on voit encore une fois, c'est que certaines espèces ont un très grand spectre d'exploitation de différents milieux, d'autres un spectre un peu plus étroit, mais en gros, ça ne change pas énormément. Par contre, l'Afrique de l'Est, et c'est en Afrique de l'Est qu'on a, je vous rappelle, qu'on trouve les premiers représentants du genre Homo, eh bien là, on a très nettement un clean très marqué entre 4,5 millions d'années, c'est-à-dire les derniers Ardipithecus, 4 millions d'années, les premières formes d'Australopithèque, hein, Australopithecus anamensis, et puis nos paranthropes et certains représentants du genre Homo, il y a 1,5 million, eh bien là, on a un changement très marqué. Et ce que ça traduit surtout, tout ça, c'est que, eh bien, en fait, ces changements environnementaux dont je parle, cette montée de l'aridité, ces changements climatiques, ça affecte beaucoup plus certaines régions que d'autres, et en particulier l'Afrique de l'Est. Vous voyez quand même que nos homos, en tout cas les homos les homos anciens les plus récents, si je peux dire, ceux qui ont moins de 2 millions d'années, eh bien quand même, ils rentrent dans la variabilité des valeurs qu'on observe chez les paranthropes et donc suggèrent quand même qu'ils sont plus que les autres formes capables de vivre dans des milieux assez ouverts. Et ces milieux ouverts, ben, c'est quelque chose qu'on invoque pour expliquer des changements comportementaux. Et vous vous souvenez, je vous ai montré ces chimpanzés du Sénégal hein, qui fabriquent des espèces de sagaies pour aller attraper des petits prosimiens dans les troncs d'arbres. Alors, encore une fois, il paraît que les femelles sont beaucoup plus capables que les mâles de fabriquer des bâtons pointus, mais enfin, tout le monde en mange apparemment. Et on a chez les chimpanzés de savane des comportements qui sont peut-être, pour certains, qui évoquent ce qui s'est passé chez les hominines qui ont été confrontés à ces mêmes milieux. Je voudrais vous montrer autre chose que je n'ai pas eu le temps de vous montrer la dernière fois, qui est un autre exemple de chimpanzés de savane, ceux-là de Tanzanie, hein, d'une région qui s'appelle Ougala. Et ces chimpanzés... Alors, savane avec quand même pas mal d'arbres. Hein. C'est une savane arborée. Vous voyez, ils ont quand même toujours des arbres autour d'eux. Et ces chimpanzés-là, eux, ne fabriquent pas des sagas, mais ils fabriquent des outils en bois qui servent à creuser le sol et notamment à extraire des tubercules qui sont des tubercules comestibles. Et donc, voilà, on peut s'imaginer nos hominines qui vivent dans des milieux de savane de plus en plus ouverts, hein, nos australopithèques en particulier, eh bien, ayant des bâtons à pointer, un peu comme nos chimpanzés de Fongolie, ayant aussi des bâtons qui peuvent servir à creuser pour trouver des végétaux, voire à assommer une petite antilope si le bâton est suffisamment lourd. Alors, malheureusement, tous ces objets en bois qui ont sans doute existé et qui ont sûrement été, je dirais, plus sophistiqués chez nos australopithèques que ce qu'on observe chez nos chimpanzés de savane, ne se sont pas conservés. Alors, tout n'est pas perdu quand même, parce qu'on a, dans plusieurs sites sud-africains, des objets qui sont des objets, alors eux, en os. Hein, et donc, vous voyez, on est déjà quand même dans un environnement où ces hominines ont accès à des os fragmentés, ce qui suggère qu'ils consomment à côté de ça des ongulés. On a des fragments d'os qui sont polis à leur extrémité, avec des striations qui ont été étudiées, qui ont été comparées aussi à le résultat d'expériences où on a essayé de faire de creuser, par exemple, avec ces objets-là. Et on pense que ces objets ont servi probablement à démolir des termitières. Vous vous souvenez, je vous ai montré un gorille en train de démonter une termitière et des chimpanzés qui étaient en train de pêcher à l'intérieur avec des baguettes très longues qu'ils avaient façonnées. Là encore, vous voyez, on rejoint tous ces comportements qu'on trouve donc certainement chez ces hominines. Alors le problème, c'est que tous ces objets qui ont été décrits dans trois gisements essentiellement en Afrique du Sud, malheureusement, dans ces trois gisements-là, entre 1,5 million et 2 millions d'années, eh bien, on trouve plusieurs espèces d'hominines. Donc on est bien incapable de dire qui les a utilisées. Les fossiles qui sont les plus nombreux à Swartkrans, ce sont des paranthropes. Donc, vous voyez, nos paranthropes qui vivent dans des milieux de savane, où on dit qu'ils ont une nourriture végétale, coriace, etc., peut-être qu'ils mangent aussi des termites. Hein. Mais ce n'est pas les isotopes du carbone qui vont nous le dire, hein, puisque tout ça, c'est dans la même chaîne trophique. Mais on a aussi, à Drimolène et dans les autres gisements, on a des premiers représentants du genre Homo, donc qui, eux aussi, peut-être se livraient à cette activité de destruction et de consommation de termites. Alors, est-ce que tout est désespéré avec la géochimie, avec les isotopes ? Peut-être pas. Alors, d'abord, on a des gens qui ont étudié non pas des rapports isotopiques, mais des rapports élémentaires. Alors, c'est quoi la différence ? Les rapports isotopiques, c'est le fait que quand une molécule organique comporte des éléments qui sont des isotopes plus lourds que les éléments les plus communs, elles vont se comporter de façon un petit peu différente. Au lieu de regarder les rapports entre des isotopes d'un même élément, on peut aussi regarder des rapports entre des éléments eux-mêmes. Et en particulier dans le squelette, il y a deux éléments, le strontium et le barium, qui se comportent un petit peu comme le calcium. Ils appartiennent à la même famille, ils sont proches dans le tableau de Mendeleïev. Et donc dans le squelette, partout où il y a du calcium, il y en a beaucoup, et bien de temps en temps, il y a un atome de strontium ou un atome de barium qui va se placer. Et comme l'organisme, dans ses processus métaboliques, a quand même, je dirais, une préférence pour le calcium, eh bien, le long des chaînes trophiques, eh bien, on a une tendance à la baisse du rapport strontium sur le calcium ou barium sur le calcium. Alors, on a essayé d'utiliser ça pour déterminer. Alors, ce qui est bien avec ces éléments, strontium ou barium, c'est que ce sont donc des éléments qu'on va trouver dans la partie minérale. Ils vont se conserver pour toujours, ils ne sont pas liés à des molécules organiques, et donc en théorie, on peut utiliser ça sur des fossiles très anciens. Dans la pratique, je dirais ça. Bon, là, je vous montre les résultats d'une étude qui a été publiée en 2012, donc c'est quand même pas dans la nuit des temps. où les chercheurs ont essayé de montrer que chez des représentants anciens du genre Homo, dans les mailles dentaires, eh bien, on a des rapports du strontium sur le barium, sur le calcium et du barium sur le calcium qui sont relativement faibles et qui pourraient correspondre à ce qu'on observe chez des carnivores. Alors, le problème de ces éléments-là, c'est que ils sont pas très très fiables. Ils sont pas très fiables. Pourquoi ? Ben parce que d'abord, dans les mailles dentaires, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que ce phénomène de, on parle de biopurification, hein, pour cet abaissement progressif du strontium et du barium vis-à-vis du calcium, cette biopurification. Il n'y en a pas apparemment dans l'émail dentaire. C'est très embêtant parce que cette étude elle a été publiée sur de l'émail dentaire. Ça marche mieux avec l'os, mais avec l'os, on a des problèmes de diagénèse, c'est-à-dire c'est assez difficile de contrôler l'effet de l'environnement sur la présence de ces éléments dans des fossiles. Je vous montre ça juste pour que vous ne loupiez rien de l'évolution de la recherche sur ces domaines-là. Alors, on a quelque chose d'autre dans notre manche qui est en train de sortir. Mais pour l'instant, la carte dépasse à peine de la manchette. Hein. Donc ça, c'est un papier qui a été écrit par une jeune chercheuse de mon département qui s'appelle Clervia Jaouen, qui est une bretonne. Et Clervia, elle s'intéresse... alors là, on est revenu à des rapports isotopiques. Elle s'intéresse aux métaux. Et elle a commencé au départ, quand on l'a recrutée, elle s'intéressait beaucoup au fer. Et on avait l'espoir de différencier mâles et femelles en utilisant les isotopes du fer dans le registre fossile. Bon, les femmes ont moins de fer que les hommes, je ne rentre pas dans toute la physiologie du fer. Bon, on a glissé du fer vers le zinc, enfin, elle a glissé vers le zinc, et le zinc est extrêmement prometteur. Alors, pour l'instant, on n'a pas de données publiées sur des séries fossiles, mais je vous montre quand même ce schéma qui vous montre, dans de l'os, la variation d'un isotope du zinc, qui est l'isotope 66. Et ces mesures, elles ont été obtenues non pas sur des fossiles, mais sur des animaux actuels. C'est-à-dire qu'on a pris des animaux qui vivent dans un milieu de savane au Kenya, et on a mesuré... alors d'abord, on a mesuré dans les plantes qui vivent dans cet environnement, et puis ensuite, on a mesuré dans différents groupes d'animaux, et vous voyez que le zinc, en tout cas, si on arrive à maîtriser les problèmes de diagénèse, c'est-à-dire l'influence du milieu chimique au cours de la fossilisation, et je pense qu'on arrive à contrôler pour ça maintenant, sépare très très bien les carnivores des herbivores. Donc vous avez là les grazers, c'est-à-dire les herbivores qui mangent de l'herbe, ensuite des animaux qui mangent plutôt des feuilles qu'on trouve dans les arbres, et puis vous avez à l'autre bout ici les carnivores qui sont très très bien séparés. Et alors il y a des choses assez bizarres, vous voyez, les hyènes se placent à part des autres carnivores, on pense que c'est peut-être parce qu'elles mangent de l'os. Les crocodiles aussi nous donnent du souci, ils sont là. Mais voilà, on a beaucoup, beaucoup d'espoir sur le zinc, et je vous reparlerai du zinc quand on parlera des ressources aquatiques, parce que vous allez voir que le zinc nous dit des choses aussi sur la consommation d'animaux aquatiques. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que tout n'est pas perdu, on va arriver à avoir des marqueurs géochimiques qui vont permettre, même sur des formes très anciennes où on n'a pas de molécules organiques, à résoudre ces problèmes de régime alimentaire. Alors maintenant, évidemment, quand on va se promener dans ces régions d'Afrique de l'Est, où on trouve des fossiles, eh bien, on peut trouver, à côté de ces fossiles, des restes d'animaux qui sont les animaux qui vivaient dans l'environnement. Et inutile de vous dire qu'on cherche sur ces restes animaux la moindre trace d'activité humaine, ou sinon humaine, du moins dominine. Et donc c'est comme ça qu'au sein de ce groupe d'espèces que j'ai rassemblé de façon très grossière sous le terme australopithèque, eh bien on commence à trouver des traces de boucherie, si vous voulez, sur des os, Et ce qu'on connaît de plus ancien aujourd'hui vient d'un site, enfin d'une région qui s'appelle Dikika, qui est en Éthiopie, où il fait très très chaud. Je vous recommande Dikika si un jour vous sentez un peu frileux. C'est un endroit absolument terrible. Hein. Il n'y a pas un poil d'ombre. Hein. Alors surtout si vous êtes avec une équipe d'archéologues américains qui se nourrissent de beurre de cacao et de choses comme ça, c'est assez, assez éprouvant. Alors, à Dikika, on a quelques ossements sur lesquels on a des traces qui ont été interprétées comme des traces de découpe. Alors, je dis quelques ossements, c'est pas beaucoup, hein. Il y en a juste quelques-uns. Ça, c'est une côte sur laquelle on a ces traces. Alors, quand cet article a été publié en 2010 par mon collègue Shannon McFerron, ça a déclenché une polémique absolument extraordinaire parce que, à l'époque, on ne connaissait aucun outil de pierre qui date de cet âge-là, hein, premièrement. Et deuxièmement, on ne connaît aucun représentant du genre Homo non plus à cette période-là. Et plus ou moins, tout le monde avait en tête que c'était les représentants du genre Homo qui fabriquaient les outils en pierre et qui s'étaient vraiment lancés dans la consommation de viande. 3,3 millions, 3,4 millions, c'est l'époque à laquelle vit, par exemple, Lucie. Hein. Donc là, ce n'est pas Lucie, c'est plutôt son papa, hein, mais c'est l'époque d'Australopithecus afarensis. Hein. Donc, Australopithecus afarensis, il faut bien se rendre compte, c'est quand même une créature qui a un cerveau à peine plus gros que celui d'un chimpanzé, qui est bipède, d'accord, mais qui est quand même très, très éloigné de l'image qu'on se fait des premiers chasseurs. Alors, il y a des collègues qui ont critiqué ce travail et qui ont, en particulier, soulevé la possibilité que certaines de ces traces, même toutes ces traces, n'étaient pas des traces d'outils, mais étaient des traces de dents de crocodile. Et je soulève ça parce que vous allez voir que quand il s'agit d'identifier les traces qu'on observe sur les ossements, il y a beaucoup d'opinions contradictoires avec des polémiques parfois qui sont assez intenses. Alors, il y a eu, dans les années qui ont suivi, quelque chose qui a un petit peu rebattu les cartes, ça a été la découverte au Kenya, à l'ouest du lac Turkana, d'industries lithiques qui sont justement de cet âge-là et qui sont beaucoup plus anciennes que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc ça, c'est une photo de Sonia Armand, qui est une archéologue française qui travaille depuis des années dans cette région. Je mentionne son nom parce que je vois qu'il n'est pas en bas de ma diapositive. Et donc, Sonia Armand a publié avec ses collègues dans Nature un article qui a fait un bruit extraordinaire, où elle a décrit cette industrie qu'elle a appelée le Lomekwien, du nom de Lomekwi, ce site qui se trouve ici. Et ce Lomekwien est une industrie qui est assez curieuse parce que, vous voyez, ce sont des très gros objets, des blocs assez importants qui ont été taillés avec beaucoup d'énergie pour extraire des éclats ou aménager des tranchants. Alors, on ne sait pas très bien qui est l'auteur de cet outillage. Ça peut être nos australopithèques, mais il y a d'autres candidats, hein, en particulier, je ne sais pas si vous avez repéré dans le buisson des australopithèques, il y avait un genre et une espèce qui s'appelait Kenyanthropus, qui est aussi un candidat possible à la fabrication de ces outils. Alors, il va falloir attendre plusieurs centaines de milliers d'années avant de trouver quelque chose d'autre de semblable. Et ce quelque chose d'autre de semblable, on l'a trouvé dans deux sites qui sont, disons, autour de 2,5 millions, un site qui s'appelle Bouri, en Éthiopie, où on a trouvé là aussi quelques os avec des traces qui ont l'air d'être des traces de décarnisation, en particulier une mandibule dont on a l'impression qu'on a extrait la langue et on a laissé des traces sur la face interne de la mandibule, une mandibule d'Alcelaphinae, hein, de gnou. Et puis un autre gisement qui est le gisement de Gona en Éthiopie. Alors Gona, Dikika, Hadar, tout ça c'est autour de la vallée de l'Awash. Hein, donc chaque équipe a son petit périmètre hein, et donc a ses gisements. Et donc tous ces gisements sont quand même assez proches les uns des autres. Et donc à Gona, on a quelques eaux. Ça c'est un calcanéum d'équidés sur lequel on a des traces de découpe. C'est très vieux, hein, 2 millions, plus que 2,5 millions pour certains de ces objets. Ce qui est très intéressant à Gona, c'est qu'on a dans le même gisement, enfin dans les mêmes gisements, on a des outillages très primitifs, alors qu'eux, on associe à l'industrie oldowayenne. Alors cette industrie oldowayenne, on la connaissait bien avant les découvertes de l'Omekwi à l'ouest Turkana. Donc cet outillage oldowayen à Gona, ben, il a 2,5 millions, 2,6 millions. Alors, c'est des choses que vous avez déjà vues, ce qu'on appelait de la pebble culture. Hein, ce sont des galets sur lesquels on a enlevé quelques éclats, donc on a un tranchant. Et puis surtout une production d'éclats, probablement essentiellement la production d'éclats qui est à l'origine de ces industries. Vers la même époque, une série de sites qui se trouvent, eux, dans le sud de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo. La vallée de l'Omo, c'est la vallée où Camille Arambourg, Yves Coppens, tous ces gens-là ont travaillé il y a bien des années. Et là aussi, on a... Alors là, on est à un peu plus de 2,3 millions. On a des outillages très, très simples qui sont produits. Je vous ai là mis à dessin une photo d'un de ces objets plutôt qu'un dessin, parce que les dessins, ça paraît toujours plus joli sur les dessins. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien tous ces éclats qui ont été enlevés. C'est vrai que quand on regarde l'objet lui-même, ça paraît déjà beaucoup plus confus. Mais il y a effectivement des éclats qui sont enlevés sur ce petit bloc de quartzite. Et donc ça, c'est cette industrie oldowayenne que l'on trouve donc simultanément à ces traces de découpe sur de l'os. Et donc, voilà quelque chose qui donc consolide l'idée qu'il y a un lien entre le développement de l'industrie lithique et puis une activité prédatrice plus marquée. Alors, en réalité, cette activité... plus marqué. Donc jusqu'à présent, on était dans la consommation occasionnelle de viande sans traces archéologiques. Et donc là, maintenant, on a de la consommation avec des traces archéologiques. Mais je voudrais quand même souligner que quand on regarde ce qu'on trouve dans ces sites très anciens, comme Gona ou Bouri, eh bien, on a un nombre de spécimens qui est absolument dérisoire. Hein. Regardez ce tableau qui vous donne le nombre de spécimens sur lesquels on a des cut marks dans différents niveaux de Gona. On parle de 1, 2, 5 os sur lesquels on a trouvé quelque chose qui pourrait être une trace de découpe, parfois trouvé au milieu d'assemblages qui sont extrêmement abondants. Donc, sans vouloir paraître trop négatif, je voudrais juste vous dire, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, que toutes ces traces d'activité humaine sur des restes osseux datant de plus de, disons, 2 millions d'années en Afrique, probablement tiennent toutes dans une boîte à chaussures pour toute l'Afrique. Hein. Donc c'est quelque chose qui existe, qui mérite d'être souligné, qui est intéressant surtout parce que ça apparaît en même temps que ces industries de pierre taillée oldowayenne, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on va trouver à partir de 2 millions d'années. Et quand on va passer ce seuil de 2 millions d'années, on va rentrer dans quelque chose de complètement différent en termes d'abondance. Et je voudrais commencer par quelque chose qui est un petit peu, inhabituel et très intéressant. Il y a eu, il y a quelques années, deux publications qui sont sorties l'une après l'autre sur des gisements de l'Est Turkana où ce que l'on trouve comme trace d'activité de découpe sur des os, eh bien, ce sont des marques de décharnement sur des animaux aquatiques. Alors, je ne veux pas gâcher le plaisir de ma présentation sur la ressource aquatique qui viendra un peu plus tard, mais parmi les choses les plus anciennes que l'on connaisse, il y a ces séries de cobifora en Afrique de l'Est où les hommes ont consommé des poissons-chats, des petits crocodiles, des tortues, des choses comme ça. C'est très intéressant parce qu'on pense qu'ils les ont capturés à la fin de la saison sèche dans des mares qui étaient transformées en mares de boue et où il était assez facile d'attraper tous ces animaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux, c'est une période de l'année où ils ont pas mal de graisse, alors que les ongulés que les hommes consomment par ailleurs, eux sont dans une phase de leur cycle biologique où justement ils ont une viande qui est une viande très maigre avec très peu de graisse, et on reviendra là-dessus quand on parlera des adaptations biologiques à la prédation. Les hommes, même s'ils sont prédateurs, même s'ils consomment de la viande, eh bien, d'une certaine façon, ne peuvent pas oublier complètement leurs origines végétariennes, et consommer de la viande maigre sans hydrate de carbone, mange du pain avec ta viande, hein, disait ma maman, mais même sans graisse, c'est un problème. Et la viande sans graisse peut être toxique pour l'homme, et donc on a besoin de consommer cette graisse. Alors là, on va rentrer dans un monde complètement différent. Je vous remonte un tableau encore avec des nombres d'individus. Voilà Gona, hein, je vous rappelle, Gona, ce site de Gona, un niveau du site de Gona avec 5 os modifiés, donc ma boîte à chaussures. Hein. Là, on va passer après 2 millions d'œufs. C'est un site très connu qui est le site d'Olduvai en Tanzanie, le site du Zingentrope. Là, on passe à des sites où on trouve des milliers, des centaines et des milliers d'ossements. Et dans ces ossements, il y en a une grande partie, 10%, 15%, qui portent des traces de modification par l'homme. Donc là, on n'est plus dans la boîte à chaussures, on est dans le... Il faut une Land Rover pour charger tous les os avec des traces d'activité humaine. Voilà ce site d'Olduvai, le site FLK. Alors, il est un peu plus récent, 1,8 million. C'est un site qui est extrêmement célèbre. Je l'ai évoqué lors de ma première année de cours ici au Collège de France. C'est un site alors, où on a trouvé beaucoup d'outillages de pierre, d'ossements, et certains de ces ossements portent ces impacts et ces traces de coupures. C'est un site qui est très très célèbre parce qu'il a été fouillé par la famille Leakey dans les années 50 et 60, et c'est le site où on a trouvé ce fameux crâne de Paranthropes que les Leakey avaient dénommé Zingentropus boisei, qu'on appelle maintenant Paranthropus boisei. Donc dans les années 59, enfin, précisément dans l'année 59, donc les Leakey trouvent ce crâne et pensent avoir trouvé l'artisan de ces industries et le premier chasseur hominien. Alors, l'année suivante, grâce à leur fils, ils vont trouver d'autres fossiles et on va se rendre compte que dans ce niveau du bed 1 d'Olduvai, dans le site FLK, on a au moins 2 hominines, des Paranthropes avec boisei et puis Homo habilis. C'est la première découverte d'Homo habilis. C'est le spécimen qui va servir à la définition de l'espèce Homo habilis. Et donc, très vite, on va, j'allais dire, déposséder ce pauvre Paranthrope de ses outils et de sa consommation de viande pour l'attribuer aux représentants du genre Homo. Je vous parle de ce site parce qu'historiquement, il a une grande importance à cause de la découverte de ces hominines, mais aussi à cause des débats qui ont entouré l'interprétation de ces outillages, l'interprétation de ces ossements. Et en particulier, c'est un site sur lequel 2 équipes se sont opposées et continuent à s'opposer. pour l'interprétation de cet assemblage avec, alors, je vous donne des noms, ce ne sont pas des individus qui travaillent tout seuls, hein, mais on a un collègue qui est professeur à l'université de Rutgers qui s'appelle Blumenschein. Et Blumenschein, il a développé tout un modèle sur l'origine de ces assemblages d'ossements et l'interprétation de toutes ces marques qu'on trouve dessus. Et l'interprétation de Blumenschein, c'est que, bah, dans le fond, les hominines, en tout cas à ce stade-là, ils ne sont pas capables d'acquérir des proies de grande taille. Vous vous souvenez, nos chimpanzés, ils chassent quand même des petites bêtes à qui, eux, veulent beaucoup de mal, mais qui ne leur veulent pas beaucoup de mal. Alors, s'attaquer à un zèbre, même à une grosse antilope, c'est une autre paire de manches pour des hommes qui disposent, dans le fond, d'un armement très limité. Et donc, l'idée de Blumenschein, c'est qu'en fait, beaucoup de ces assemblages de cette période holdowayenne peuvent être interprétés comme, en tout cas pour les grosses proies, comme un cycle, une succession de phases où les premiers consommateurs sont des grands carnivores et en particulier des félins. Ensuite, les hominines viennent et mangent ce qui reste comme viande. Et puis, à la fin, des charognards comme les hyènes, si je peux dire, finissent le travail et détruisent une grande partie de l'assemblage. Et dans le fond, ce que pense Blumenschein, c'est que les assemblages qu'on trouve en Afrique de l'Est dans ces périodes-là, eh bien, s'inscrivent dans ce modèle. Alors, ils ne sont pas tous au même stade. Parfois, par chance, on a quelque chose qui est juste après les lions et les hominines, avant que les hyènes n'arrivent. Parfois, c'est après que les hyènes soient passés par là. Mais voilà, ça, c'est l'interprétation de Blumenschein. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse à propos de cette histoire de charognage. Vous vous souvenez, je vous ai souligné le fait qu'on ne connaît pas vraiment ça chez les chimpanzés, mais les chimpanzés, ils ne mangent pas des arbres. Il y a une... Sur l'idée du charognage par les hominines, il y a deux possibilités. La possibilité d'un charognage qu'on va appeler passif, hein, c'est-à-dire, en gros, on attend que les lions soient partis et puis on mange ce qu'on peut sur la carcasse. Et puis après, il y a ce qu'on a appelé en anglais « power scavenging », ou un charognage de confrontation. Alors là, bon, il faut être un peu plus téméraire. Il s'agit d'aller au-devant des carnivores qui viennent de capturer une proie et, dans le fond, de les écarter de la proie pour récupérer le gibier. On connaît des choses comme ça chez des chasseurs-cueilleurs récents, mais qui ont aussi un armement que n'ont pas probablement nos hominines d'Olduvai du BED 1. Alors, le problème du charognage de confrontation, c'est que c'est très difficile à tester. C'est très difficile à prouver. Parce que si vous avez accès à la proie d'un carnivore juste après qu'il l'ait tué et que vous arrivez à le chasser et à la récupérer, ça va être très difficile, 2 millions d'années après, de montrer que cet animal il a été tué par un lion avant que les hominines ne finissent le travail et la consommation. Donc c'est quelque chose qui est, j'allais dire, intéressant à garder en tête, mais pratiquement impossible à tester. Alors il y a des... Donc ça, c'est l'interprétation, disons, de Blumenschein et de beaucoup de gens qui ont travaillé autour de lui, des élèves et des collaborateurs. Alors il y a une école, qui n'est pas une école américaine, qui est une école espagnole, qui est mené par un collègue de l'université Complutense de Madrid qui s'appelle Dominguez Rodrigo, qui dans le fond a retravaillé toutes les collections, en particulier d'Olduvai, et qui lui dans le fond est assez hostile à cette idée de charognage, dont il pense que ça joue aucun rôle ou un rôle très faible, et que c'est tous les restes que l'on trouve sont des restes qui proviennent d'un accès en premier par les hominines aux carcasses, parce que, dans le fond, alors peut-être à cause d'un charognage de confrontation, mais plus probablement parce qu'ils sont capables de les chasser, de les capturer. Et donc voilà, donc Blumenschein et Dominguez Rodrigo, depuis des années, se battent à coups de publications. Alors, les Américains ont un haut-parleur beaucoup plus puissant. Les Espagnols ont la passion, on va dire. Mais voilà, tout ça est très, très animé comme débat. Alors, les arguments d'un côté et de l'autre, je vais essayer de vous montrer comment les zooarchéologues travaillent sur ces questions-là. Alors d'abord, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Pobiner, qui est allée au centre du Kenya pour... Alors, il y a beaucoup de travaux expérimentaux dans tout ça. C'est-à-dire que les gens, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de voir ce qui se passe si on laisse une carcasse à des hyènes, à des lions, ou alors si on enlève de la viande d'abord et qu'on la laisse après, ou qu'on essaie de la récupérer après que les lions soient passés. Ça, c'est un peu risqué. C'est ce qu'a fait Pobiner. Donc, Pobiner, avec une Land Rover et un monsieur qui avait un fusil, est allé dans le centre du Kenya, dans des environnements qui sont... des écosystèmes dominés par les lions pour récupérer des carcasses laissées par les lions et parfois en partie consommées ensuite par les hyènes. Alors, pourquoi elle est allée dans ces environnements-là? Dans le fond, ce qui l'intéresse dans cette histoire-là, c'est que beaucoup d'études qui ont été faites par d'autres sont des études qui ont été faites dans des environnements qui sont des environnements où les hyènes justement dominent, le Serengeti, Masai Mara, des parcs comme ça. Donc Pobiner, elle est allée dans des endroits où c'est les lions qui mènent la danse. Et ce qu'elle a montré dans une étude qu'elle a publiée, c'est que si on regarde les proies d'assez grande taille, des gnous, des zèbres, des animaux comme ça, c'est ce que les zooarchéologues classent dans la classe 3 et la classe 4, on a créé des classes pour la taille des mammifères, donc des animaux assez grands, eh bien, en fait, il reste pas mal de viande sur les carcasses une fois que ces lions sont partis. Et vous voyez, toutes ces barres blanches ici, c'est ce qu'elle appelle bulk flesh, c'est-à-dire c'est vraiment des paquets de viande qui restent. Alors, pas partout, mais certains endroits autour du pelvis ou autour de la... dans la cavité thoracique, des choses comme ça. Donc, en gros, ce qu'elle montre, c'est que sur une carcasse comme ça, eh bien, il y a de quoi, pour un hominine, récupérer 2000 kilocalories, quelque chose comme ça, ce qui est à peu près ce qu'il vous faut pour vivre tous les jours. Alors, c'est vrai pour les animaux d'assez grande taille. Alors, par contre, si on s'intéresse à la classe 1 et 2, là, les lions... quand même, on ne laisse pas grand-chose à manger. Vous voyez que les barres blanches sont extrêmement petites et réduites. Et alors, si par malheur, les hyènes passent par là, alors là, même avec la classe 3-4, c'est-à-dire les gros animaux, là, il ne reste vraiment presque rien, c'est-à-dire il reste ce qu'elle appelle « flesh scraps », c'est-à-dire des petits fragments de viande sur certaines parties du squelette. Mais vous voyez que, par exemple, des os comme le bassin, le sacrum, sont des os qu'on va retrouver, si on les retrouve, complètement nettoyés par les hyènes. Donc, ce travail, c'est intéressant parce que ça montre quand même la possibilité, disons l'intérêt pour ces hominides de s'intéresser à ces carcasses. Alors après, on peut regarder sur les os que l'on récupère dans les sites archéologiques, on peut essayer de trouver des traces qui permettent de définir si ces os ont été modifiés par les hommes ou modifiés par des carnivores. Vous voyez que il y a des choses qui sont assez faciles à reconnaître. Par exemple, ces petites traces là que vous voyez, où il y a plusieurs stries dans une incision en V, ça, c'est assez typique d'outils en pierre. Et c'est ce qu'on va trouver dans certains sites. Et ça, ça a été laissé par les animaux. Et puis après, il y a des traces qui sont des traces de dents laissées par les carnivores. Mais vous voyez que parfois, les traces de dents laissées par les carnivores, ça peut ressembler un peu quand même à des traces laissées par des outils. Vous vous souvenez de mon histoire de crocodile à Dikika. Donc, c'est encore pas complètement résolu. Et alors, pour arranger l'affaire, on a aussi ce qu'on appelle la bioérosion, c'est-à-dire des bactéries qui se mettent presque immédiatement dans ces marques et qui modifient leur aspect. Et donc, c'est à coup de bioérosion en particulier que Blumenschein et Dominguez-Rodrigo se battent à longueur de publication. Alors, il y a autre chose qui est très intéressant à regarder, c'est sur les ossements, la localisation des modifications. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt sur la diaphyse, est-ce que c'est aux extrémités des os longs et donc, il y a des méthodes qui ont été développées, hein, des méthodes GIS, pour, dans le fond, cumuler toutes les informations obtenues sur, par exemple, tous ces os longs, hein, des fémurs, des humérus, et montrer de façon statistique comment ces ossements ont été traités. Je vais vous montrer un exemple pour vous montrer l'intérêt de ce genre de choses. Et comme exemple, j'ai choisi Cangera. Alors, j'ai choisi Cangera. C'est Cangera qui nous a choisis, en fait, parce que ce gisement de Cangera South, c'est une localité qui est près du lac Victoria et qui est le site le plus ancien pour lequel on a une grande quantité d'ossements. On est 200 000 ans avant le site d'Olduvai que je vous montrais tout à l'heure. On est à 2 millions d'années et on a, dans une stratigraphie, plusieurs niveaux qui montrent que des hominines sont venus, ont accumulé des ossements et ces ossements portent des traces qui sont des traces de découpe comme celle-là. Alors, à Cangera, on a un nombre assez important de fossiles. Vous voyez, on parle de milliers d'ossements qui sont trouvés dans ce site. Il y a eu 3 fouilles qui ont été faites. Et sur ces ossements, il y a des proportions assez importantes sur lesquelles on trouve... Alors, TM, c'est tooth marks, c'est des traces de dents de carnivores. Cut marks, c'est des traces de découpe par les hommes. Et PM, c'est percussion marks, c'est des traces de percussion sur les ossements. Et on s'intéresse particulièrement au fait de savoir si ces traces, on les trouve plutôt sur le milieu de la diaphyse, sur le milieu de l'os ou sur les extrémités. Et pourquoi on s'intéresse à ça ? Eh bien, on s'intéresse à ça parce qu'à travers toutes ces études, on s'est rendu compte que, en fait, une des caractéristiques qui distinguait les assemblages d'ossements pour lesquels c'était d'abord des carnivores et essentiellement des carnivores qui avaient été responsables de leur accumulation par rapport à ce qui se passe chez les hominines, eh bien, la différence, c'est le nombre de traces de dents, de morsures, sur le milieu des diaphyses. D'accord ? Et quand on a beaucoup de traces de dents sur le milieu des diaphyses, c'est que c'est surtout des carnivores, des lions par exemple, qui ont dévoré ces animaux. Et dans les assemblages qui sont des assemblages où on trouve, enfin qui ont été générés par l'homme, alors, encore une fois, tout ça c'est en grande partie expérimental, c'est-à-dire qu'on a volontairement modifié des ossements, fracturé des ossements, découpé des ossements, on les a laissés à des carnivores. Et donc vous voyez que les niveaux de Cangera produisent des ossements qui correspondent beaucoup plus à un profil d'assemblage pour lequel on a un accès en premier des hommes avant les grands carnivores. Alors, ces différences-là, entre ce qui se passe avec la diaphyse, les épiphyses, etc., c'est lié en grande partie, bah, d'abord, à ce que les carnivores consomment par rapport à ce que les hommes consomment. Et je reviens sur cette notion que les hommes, une des différences qui les sépare des carnivores, c'est que les hommes, encore plus que les carnivores, sont intéressés par les matières grasses, sont intéressés par les hydrates de carbone. Et donc, ils vont, en particulier, fragmenter systématiquement les diaphyses des os longs pour extraire de la moelle, alors que les lions, bon, s'il y a de la moelle, ils la mangent, mais ils vont manger plutôt la viande, et c'est pour ça qu'on a ces différences. Et donc, on peut, sur des diagrammes comme ça, marquer en abscisse le nombre de traces de dents sur le milieu des os longs, et puis là, le ratio qui existe dans l'assemblage entre la partie centrale des olons, c'est-à-dire cette diaphyse, et puis les épiphyses. Et vous voyez que dans les assemblages où les hommes interviennent préférentiellement, eh bien, il y a un rapport épiphyse sur diaphyse qui est beaucoup plus élevé que dans les assemblages laissés par les lions, par exemple. Encore une fois, tout ça, c'est lié à la... l'intérêt, l'attrait des carnivores pour certaines parties du squelette et ce que les hommes recherchent qui est un petit peu différent. Alors, dernier point à propos de Cangera, on peut regarder aussi les proportions des différentes parties du squelette qui sont conservées dans le site, dans ces trois niveaux de Cangera, et en particulier, dans une étude qui a été publiée il y a quelques années, on a regardé ce qui se passait avec les petits bovidés, genre gazelle, par opposition à ce qui se passe avec des animaux d'un format supérieur, là, c'est un bubal. C'est très intéressant parce que ce qu'on observe avec ces petits animaux-là, eh bien, c'est que... alors, il faut tenir compte dans cette fréquence des différentes parties du squelette d'une dimension de conservation. Il y a des os qui se conservent moins bien que d'autres à travers le temps. Donc il faut corriger ce qu'on observe comme fréquence en tenant compte de cette conservation différentielle. Mais une fois qu'on a fait cela, eh bien, on se rend compte que, dans le fond, ce qu'on trouve le plus à Cangera, eh bien, sont les parties du squelette qui portent le plus de viande. En particulier, vous voyez, l'humérus, la scapula, hein, c'est-à-dire c'est l'épaule d'agneau. Hein. Voilà. Donc, alors ça prouve une chose, c'est qu'il y a un transport des carcasses, en tout cas un transport d'une partie des carcasses. Et dans le fond, le comportement de ces hominines, eh bien, c'est un comportement où ils vont, minimiser le poids à transporter par rapport au rendement, si je peux dire, de ramener des carcasses quelque part. Encore une fois, ça souligne cet aspect de transport, peut-être de partage des proies. Alors avec les bubales, enfin les animaux de la taille du bubal, on a une image un petit peu différente parce que on voit que des parties du squelette qu'on n'attend pas tellement, qu'on trouve pas dans le profil de ces petites proies, deviennent très fréquentes. Et en particulier, il y a un très grand nombre de crânes, de têtes, parce qu'il y a les mandibules aussi, qui ont été rapportés par ces hominines dans le site des Cangera. Et ça suggère que si pour les petites proies, on a un accès en premier par les hominines à ces proies, avec un transport et une consommation des parties qui sont les parties les plus charnues, dès qu'on passe à des tailles un peu supérieures d'ongulés, eh bien là, probablement qu'il y a une forme de charognage qui est en jeu. Pourquoi ? Eh bien parce que le crâne, je mets à part les hyènes qui sont capables de consommer n'importe quoi, mais les autres carnivores, les félins, ne consomment pas les crânes. Et les crânes sont très intéressants pour les hominines parce qu'ils contiennent... le cerveau et des matières dont ils sont friands. Alors pour finir ce cours, je voudrais parler un petit peu de... Parce que là, on a parlé quand même d'accès à ces animaux de chasse. Donc, hein, et donc, vous demandez comment est-ce qu'ils les attrapent, hein. Alors c'est quelque chose qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Je vous ai montré des chimpanzés qui avaient des espèces de lances, enfin de petites de bâtons pointus qu'ils avaient fabriqués, en vous disant que probablement les hominines anciens avaient des choses comme ça. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que en fait, il y a chez l'homme des adaptations biologiques qui sont des adaptations biologiques à la course d'endurance, et que c'est cette course d'endurance qui a été probablement un des moyens pour les hominines de capturer ces animaux. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre comment hier, des chasseurs sanes capturent des antilopes dans des milieux qui sont des milieux très chauds, très secs. Et vous allez voir que, à la différence d'autres carnivores, Les hommes chassent le jour. Ils chassent pendant les heures chaudes de la journée et ils sont équipés pour ça. Et grâce à cette capacité à courir sur de longues distances, je ne sais pas combien d'entre vous font des marathons, mais c'est extrêmement à la mode en ce moment. Mais on a, vous allez voir que grâce à cette capacité que les hommes ont de courir sur de très très longues distances, eh bien, ça leur permet de d'épuiser des proies et de les amener à des situations d'hyperthermie où ils n'ont plus qu'à les achever et qu'à les consommer. Alors, même de la musique. Vous voyez ces chasseurs San qui patrouillent dans la savane et qui vont identifier des antilopes qu'ils vont poursuivre, si possible en les blessant auparavant, et qu'ils sont capables de poursuivre pendant de très très longues durées. Ce sont des chasses qui peuvent durer 2-3 heures. Et à partir du moment où les hommes ont accès à l'eau, et grâce à leur capacité de transpiration, eh bien, ils vont être capables de poursuivre ces proies pendant les heures les plus chaudes de la journée, pendant de très très longues, sur de très très longues distances. Et vous allez voir ce qui se passe à la fin de cette chasse. Eh bien, au bout d'un moment, l'antilope qui n'a pas ces capacités de régulation thermique que les hominines ont, eh bien, elle va s'effondrer. Et dans le fond, l'arme que porte ce chasseur ne sert qu'à achever cet animal. Et donc, on va reparler de ça quand on étudiera les adaptations biologiques à la chasse. Mais on voit apparaître chez les hominines, alors après 2 millions d'années, un certain nombre de modifications anatomiques qui semblent prouver que cette capacité, non plus à la marche, mais à la course et à la course sur de longues distances, est quelque chose qui a joué un rôle essentiel dans leur capacité de prédation. Alors, vous avez vu ce chasseur utiliser une lance qui a une pointe en fer. Donc, nos hominines d'il y a 2 millions d'années ou 1,8 million n'avaient pas d'armes de ce type-là. Et malheureusement, on n'a pas, j'ai insisté là-dessus, hein, les faibles chances qu'on a de trouver des outils ou des armes en matière périssable comme le bois. Alors, on va faire un bond dans le temps. Et je vais vous montrer quand même des armes en bois, alors qui sont pas africaines, elles sont allemandes. Hein. Elles viennent d'un gisement qui s'appelle Schöningen, qui est en Basse-Saxe. On a fait un bond énorme dans le temps, on est il y a 300 000 ans seulement, dans une mine à ciel ouvert de lignite, où il y a des possibilités de conservation des matières organiques qui sont tout à fait extraordinaires. Et dans ce site-là, eh bien, on a trouvé toute une série de ces objets qu'on aimerait bien trouver en Afrique pour des périodes très anciennes. Donc, ce sont des lances qui font à peu près 2 mètres de long, qui sont très, très bien façonnées, qu'on trouve au milieu d'une grande quantité d'ossements de chevaux qui ont été tués manifestement par ces armes. Voilà un grossissement d'un de ces épieux. Donc on a beaucoup de, comment dire, on a beaucoup fait d'expériences sur ces objets-là. On a essayé de savoir à quelle distance on pouvait les lancer, est-ce qu'on pouvait les lancer de façon qui soit réellement meurtrière pour le gibier, ou est-ce qu'il fallait les appuyer avec pour pénétrer. Bon, je passe sur tous ces détails-là. Ce qui est important, c'est que probablement ces armes ont une existence beaucoup plus ancienne. Je reviens à mes chimpanzés de savane, ont une expérience beaucoup plus ancienne que ce que l'on connaît dans le registre archéologique. À part Schöningen, on connaît au moins dans 2 autres sites en Europe, mais avec des conditions environnementales et à des périodes récentes, donc des conditions très particulières, des objets comparables, mais on peut imaginer que des choses comme ça ont existé le Pléistocène le plus ancien en Afrique, et que combiné à la capacité de course d'endurance sur de longues distances, c'est probablement comme ça qu'il faut imaginer les origines de la chasse. Juste pour finir, je vous montre une photo ou deux de l'évolution de ce genre d'objet, évolution beaucoup plus tardive. On va voir apparaître, mais là, c'est très récent, c'est essentiellement dans le Paléolithique moyen en Europe et dans le ce qu'on appelle le Middle Stone Age en Afrique, des pointes de pierre qui vont être emmanchées et qui vont permettre de rendre ces armes, au début essentiellement et uniquement en bois, de devenir de plus en plus meurtrières. Et on va en particulier dans le Middle Stone Age africain voir une évolution de ces outils, de ces artefacts, vers des pointes de plus en plus perfectionnées et aussi de plus en plus légères. Et on va graduellement passer à des armes qui sont des armes qui permettent de tuer à distance, à des distances de plus en plus grandes. Et c'est probablement, je dirais, l'évolution la plus importante de l'armurerie de chasse, de la panoplie de chasse de nos chasseurs paléolithiques, le développement de techniques pour tuer à distance avec des moyens de propulsion, pour envoyer des projectiles armés de pointes comme ça avec des très grandes vélocités. Et donc ça va changer complètement le mode de chasse de ces hominides. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine.